Je le disais tantôt, en cette période où nous sommes tous un peu tannés de respecter les règles, puis on a le goût de liberté, puis on a le goût de retrouver la vie qu'on avait avant, et on regarde aller les prochaines semaines en disant « il va se passer quoi à Noël? » Le livre de Kim Thuy arrive à point. Le titre du livre « M.E.M. » qui nous amène au Vietnam pendant la guerre américaine. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment l'être humain, à travers une période de guerre, une période d'une violence inouïe, peut montrer une série de facettes. Et je dois dire que c'est fait de main de maître. C'est un livre qu'il faut lire actuellement parce que ça va replacer un peu, je dirais, le sens du mot résilience. Ça va nous replacer un peu dans ce qui est important, puis ce qu'il ne l'est pas. Puis quand une période comme celle-ci arrive, qui n'est pas comparable, évidemment, là, ben, il y a toujours moyen quand même de tirer un certain bénéfice et de voir chez l'humain parfois le pire, mais aussi parfois le meilleur. Kim Thuy, bonjour.
Bonjour. J'ai remarqué que vous avez dit la guerre américaine.
Oui.
Et non pas la guerre du Vietnam.
Exact. C'est ce que vous dites dans le livre aussi.
Oui, oui, oui. Mais donc, je suis vraiment touchée. Déjà, que vous étudiez de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue des Vietnamiens. Parce que c'est sûr qu'on est au Vietnam, on ne peut pas l'appeler guerre du Vietnam. Donc, on l'appelle la guerre américaine. Alors que quand on est à l'extérieur, évidemment, c'est une guerre qui est appelée la guerre du Vietnam.
Ce qui m'a beaucoup frappé dans le livre, avant de le lire, j'avais vu une entrevue que vous aviez donnée où vous dites grosso modo que 90 % de ce que vous racontez est vrai.
Oui. Et vrai, mais en même temps, seulement 1%. Je ne peux même pas tout décrire, vous voyez, parce que c'est trop. Et juste la période, vous voyez, quand j'ai raconté l'histoire du massacre à My Lai, dans ce village-là, j'ai pas pu raconter aussi que les soldats américains coupaient, en fait, les oreilles des Vietnamiens qui étaient morts et les collectionnaient et les enfilaient puis les accrochaient, dans les lieux où ils se trouvaient comme collection. Et oui, j'aurais pu en parler peut-être, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné dans mon écriture pour ce livre-là. Peut-être un jour, mais vous voyez, donc, c'est sûr que oui, je raconte des choses, mais je n'étais pas capable de tout raconter parce que c'était trop. C'était trop pour moi et je crois aussi que c'était trop pour le lecteur. Là, c'est tôt hein, pour que je vous parle de ça. Je viens de m'en rendre compte, ça n'a aucun sens.
Non, mais c'est très page après page. Je reviendrai après ça au volet plus humain, plus fil conducteur entre les personnes, mais c'est de voir ce niveau de violence. Là, il faut se mettre en contexte. Là. Vous êtes né en 1968 et vous dites, vous n'étiez pas conscient nécessairement de ce qui se passait puis de toute cette violence qui entourait vos proches et les gens autour de vous.
Exactement, parce que je suis né à Saigon, donc à la capitale dans le sud. Et comme vous savez, les capitales sont toujours protégées pendant une guerre jusqu'à la dernière minute. Hein. C'est la capitale qui tombe en dernier. Et j'ai eu la chance d'être née dans une famille qui était capable de me protéger. Donc, je vivais dans une tour d'ivoire, en fait. Oui, on sentait la guerre. Et comme on le sait, il y a la mémoire aussi, la transmission, sans le vouloir, de la part des adultes, de ces atrocités-là vers les enfants, mais j'en étais pas consciente de façon, réelle de ce qui se passait. Oui, c'est vrai qu'on avait peur du kidnapping, puis oui, je n'avais pas le droit de jouer dans la rue. On voyait les militaires un peu partout et il y avait un couvre-feu, mais ça faisait partie d'eux. Vous voyez, quand vous êtes né dans un pays en guerre, vous ne pouvez pas faire la comparaison avec un pays en paix. J'arrive ici, je dis, mon Dieu, on peut aller où on veut, quand on veut, avec le moyen qu'on a, alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Mais il n'y avait pas de point de comparaison.
Mais c'est épouvantable d'imaginer non seulement la guerre, vous dites, c'était avant l'arrivée des drones, c'est-à-dire c'était une violence où le soldat américain l'avait devant lui. Là, on n'est pas quelqu'un qui contrôle à distance des appareils. Ça veut dire que d'ouvrir le feu sur des femmes, sur des enfants, sur tout ce qui bouge finalement, comment un être humain peut poser un tel geste? Je comprends qu'il obéit à des ordres, mais quand même.
Mais parce qu'ils avaient été, vous savez, quand vous regardez un peu comment on fait l'entraînement de ces jeunes-là, puis il faut vraiment se placer dans leur tête, là, ils avaient 18 ans, 20 ans. C'est vraiment, j'ai deux garçons, un de 18 puis l'autre de 20, puis je peux pas les imaginer aller jeter comme ça au milieu de la jungle vietnamienne, à l'autre bout du monde, des garçons qui sortaient qui habitaient encore chez les parents, tu sais, la plupart. Et soudainement, comme ça, ils se retrouvaient dans un milieu tellement hostile, une langue qu'ils ne connaissaient pas, des traditions qu'ils ne connaissaient pas, ni les us, ni les coutumes. Et donc, ce n'était même pas possible pour eux d'identifier où était l'ennemi, parce que l'ennemi était aussi habillé en civil. Donc, je comprends leur peur, vous voyez, leur panique. Quand vous arrivez dans un village, vous ne savez pas où est votre ennemi. Donc, vous tirez sur tout. Donc, pendant l'entraînement, on les entend. T'sais, pendant qu'ils couraient ou qu'ils faisaient des exercices et tout ça, c'était « kill, 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 kill ». Donc, dans votre tête, ils ne sont plus des humains. Quand ils posent ces actes-là, je vous dirais, c'était des machines de guerre. Et les machines de guerre, pas que je veux les excuser, c'est pas ça, mais ça a été programmé par quelques leaders qui voulaient cette guerre-là et qui a imposé ça à plusieurs populations, j'allais dire juste deux populations, c'est-à-dire américaines et vietnamiennes, mais il y en avait d'autres qui étaient impliquées là-dedans. Et donc, on ne peut pas, moi, personnellement, je ne peux pas reprocher ces jeunes-là à poser ces actes-là. C'est parce qu'ils ont été entraînés pour le faire.
Passons du côté des humains, parce que c'est un aspect fascinant dans votre livre quand vous racontez le point de départ, donc des gens qui s'aiment, des gens qui sont en amour alors qu'ils ne devraient pas l'être, tout le tabou que ça suppose. Et page après page, ce que vous nous proposez, c'est un fil conducteur qui explique bien des choses sur des enfants qui deviennent orphelins, sur ceux et celles qui s'en occupent, sur le départ vers les autres pays, puis à quel point, peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, que ce soit à Montréal, San Francisco, il y a toujours ce lien qui existe et qui est permanent.
Oui, puis on très souvent, on peut pas imaginer. Il y a la théorie du 6 degrés de séparation, là, qu'on est tous reliés quelque part à quelqu'un. Si on prend deux personnes au hasard dans le monde, on peut faire le lien entre ces deux personnes-là. Et moi-même, j'étais étonnée parce que l'histoire que je voulais raconter, c'était l'histoire d'une petite fille qu'on a photographiée alors qu'elle dormait dans une boîte de carton avec un autre garçon à l'extérieur, à côté, sur un trottoir. Et parce que la photo a été publiée, elle a été adoptée par un couple américain. Mm-hmm. Et il n'y a pas si longtemps, ils ont organisé des retrouvailles entre la petite fille et le photographe. Ils ont retrouvé, parce que c'était grâce au photographe qu'elle a été adoptée. Et elle est aujourd'hui haut gradée de l'armée américaine. Mais comment est-ce qu'on peut... T'sais, ça dépasse la fiction. Jamais ma tête serait capable d'imaginer un tel lien, vous voyez? Mais on a juste à suivre la réalité, puis on... Ouais, un peu comme j'ai raconté pour le vernis à ongles, cette actrice, par pur hasard, qui avait déjà été au Vietnam, qui était... Ben, en tout cas, qui avait une attention particulière pour le Vietnam, qui rencontre des réfugiés, puis à partir de là, il y en a une qui a complimenté son vernis, et après, ben, ça lui a donné l'idée de donner une formation aux femmes pour qu'elles aient un métier, parce que comme on le sait, un emploi dans un nouveau pays redonne la dignité à la personne. Hein. Et donc, elle a monté une petite classe de rien, et à partir de là, c'est devenu une industrie. Puis jamais on penserait qu'une Vietnamienne travaillerait avec quelqu'un de la communauté afro-américaine, par exemple. Mais ça a commencé là. C'est que les Vietnamiennes n'avaient pas vraiment les moyens. Là, ils habitaient dans des quartiers un peu moins fortunés. Donc, leurs voisins ou leurs voisines étaient de la communauté afro-américaine. Et ce sont deux communautés vulnérables qui ont créé cette industrie aujourd'hui qui vaut 10 milliards de dollars. Et ça, c'est une histoire vraie. J'ai rien inventé.
Ça parle tout seul. Kim, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. C'est vraiment à lire, et surtout ces jours-ci. Merci beaucoup.
Oh, merci beaucoup.
Au revoir,
merci.
Bonne journée.
Merci.
Kim Thuy, le titre du livre, EMM, publié chez Libre Expression. C'est quoi? C'est environ 200 quelques pages. Même pas, 150 pages. Vraiment à lire. Après ça, tu vas trouver que ces jours-ci, ça va pas si mal. On revient après.